Salut à tous et bienvenue dans les podcasts de Wacademy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Wacademy, une école de didgeridoo en ligne. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que j'ai 24 heures de retard pour ce podcast. Pourquoi j'ai 24 heures de retard pour diffuser le podcast? C'est que là, ces 3-4 derniers jours, on a beaucoup bossé avec Sam, le webmaster de Wacademy, pour installer le nouveau forum. C'est-à-dire que quand j'avais lancé Wacademy, il y a eu un choix de forum pour le lancement, qui était un choix qui était un peu lié à la technique. Bon, c'était le choix qui s'était présenté à ce moment-là. Et c'était un forum qui datait un peu au niveau des fonctionnalités, tout ça. Et donc, on a pris le temps de changer de forum et d'amener quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur le forum, je suis très fier de cette version-là. C'est responsive, ça s'adapte à la taille de votre écran de téléphone. Vous pouvez avoir même des notifications avec vos navigateurs web, peu importe sur téléphone ou sur l'ordinateur. Bon, je referme ma parenthèse, c'était pour vous expliquer pourquoi le retard et faire un petit coup de pub quand même pour ce nouveau jouet qu'on a pour tout le monde, pour toute la communauté. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai décidé de vous partager 10 morceaux qui m'ont beaucoup, quoi, qui m'ont influencé. Alors, pas là, j'ai sélectionné vraiment des morceaux très précis. Il y a bien sûr les artistes qu'il y a derrière, mais voilà, 10 morceaux de didgeridoo qui m'ont influencé et avec lesquels j'ai commencé le didgeridoo et avec lesquels j'ai petit à petit pris conscience de certaines choses, de ce qu'on pouvait faire avec l'instrument, qui m'ont ouvert en tout cas des portes. Donc évidemment, au niveau des droits d'auteur, j'ai pas l'autorisation de tout le monde pour diffuser ces morceaux-là. J'ai donc décidé de les couper à 1 minute 30, donc de faire en gros un extrait, à part le premier morceau qu'on va écouter, où là je l'ai poussé un peu à un peu plus long, parce qu'en fait, il y a un moment ça bascule dans le morceau, et en plus il est sur YouTube, donc je me suis dit que c'était pas... les musiciens ne m'en voudraient pas trop d'avoir diffusé une trop longue partie de ce morceau. Donc voilà, ça c'est la petite précision technique. On peut donc commencer dès maintenant pour le premier morceau. Alors, le premier morceau, c'est le morceau qui m'a donné envie de jouer du didgeridoo. C'est celui-là que j'ai écouté, qui faisait partie d'un album, mais c'est vraiment celui-là que j'ai retenu. Cet album, c'était mon frère jumeau qui était revenu d'un concert la veille dans le village à côté et qui a dit « Ah, tu devrais écouter ». Il m'avait ramené l'album, il me l'avait offert et il m'avait dit « Tu devrais écouter, ça devrait te plaire, c'est avec du didgeridoo ». Moi, je ne connaissais pas du tout, évidemment, et donc j'ai écouté et là, je suis tombé complètement raide dingue du didgeridoo. Le groupe qui joue s'appelle Chaophonic Tribu, pour ceux qui connaissent. C'est eux qui ont pas mal démocratisé le didgeridoo. C'était un peu trance, leur musique, même carrément trance. Il y a des percussions, un bassiste, je pourrais plus dire exactement le nombre d'instruments qu'il y a sur scène. Voilà, vous allez entendre le côté dynamique et assez planant du morceau. Donc c'est parti pour l'écoute du morceau numéro 3 de l'album Quasi Trance Prologue. Thank you. voilà pour le morceau de Chaophonic Tribu. Vous voyez que c'est assez planant au départ et puis après que ça part. J'adorais le moment où ça se lançait et que ça partait. C'était à 3 minutes 19. Je connaissais le timing exactement par cœur. J'ai écouté ce morceau, mais des centaines et des centaines, voire des milliers de fois. Et quand je réécoute encore maintenant, ça me fait toujours cet effet de... Ça me replonge à mes débuts du didgeridoo. Je pense qu'on a tous comme ça un morceau qui déclenche ou quelque chose qui a en tout cas, ouais, une rencontre qui a déclenché. Et pour moi, ça a été avec ce morceau-là qui a vraiment tout mis en route, quoi. Donc voilà, c'était un grand merci pour Chaophonic Tribu pour leur énorme participation dans ma petite vie de joueur. Parce que je trouve qu'ils arrivent, justement, ils ont réussi dans leur mix à faire bien ressortir le son des harmoniques tout en gardant une basse vachement présente, ce qui est très peu développé dans le monde du didgeridoo. Voilà, donc ça c'était le morceau de Chaophonic Tribu. Deuxième morceau, quand j'ai découvert Chaophonic Tribu, évidemment j'étais connecté à aucun autre joueur, j'étais juste tout seul et j'ai découvert ça. Et puis ensuite, je me suis connecté à l'association de Dijon, et là, il y a Greg de l'association, où j'en ai parlé pas mal de fois de Greg dans ma méthode et dans les articles, parce que c'était aussi un de mes mentors au départ, le jeu typique d'Ajargan, qui changeait complètement de ce qu'on pouvait entendre à l'époque, parce que Ajargan avait vraiment un dynamisme qui était difficile à trouver. Donc c'est parti pour Ajargan, c'est le premier morceau de l'album Ash, Dust and Dirt. Dans ce morceau-là, vous pouvez entendre qu'on rentre vraiment dans le monde du didgeridoo. C'est beaucoup plus brut et beaucoup plus... c'est du didgeridoo solo, donc beaucoup plus puriste, quoi. Mais Ajargan, il avait vraiment la particularité à l'époque d'amener un type de respiration. Il avait un dynamisme qui était vraiment pas répandu. La plupart des joueurs de l'époque jouaient les joues gonflées, jouaient avec peu d'attaques et avaient peu de dynamisme, en fait, dans leur rythmique. Tandis que Ajargan, il cassait ça et il arrivait vraiment avec une rythmique de fou. Et cet album Ash, Dust and Dirt, c'est à mon sens un des plus réussis, parce que sinon vous pouvez le trouver partout aussi en Australie. Ajargan, il est très répandu dans les magasins de souvenirs, dans tous les magasins de didgeridoo, mais il a fait beaucoup d'albums aussi qui sont assez commerciaux et la musique n'est pas forcément très intéressante. Dans cet album-là, en solo, il a vraiment des bonnes rythmiques et une approche qui est intéressante. Le morceau suivant, on évolue dans le style, on va dire, et ça va un peu avec ma progression, moi, de joueur. C'est-à-dire que j'ai découvert Ajargan avec Greg de l'Assaut, et puis ensuite, il y a eu, 6 mois après que j'ai commencé la première édition du Rêve de l'Aborigène. Et au Rêve de l'Aborigène, il y a eu un Suisse-Allemand qui est monté sur scène, c'était encore dans la salle des fêtes à ce moment-là. Et là, il y a un Suisse-Allemand qui monte sur scène et qui commence à nous raconter des histoires avec son didgeridoo. Son nom, c'est Den Radour. Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce que je trouve qu'il a réussi à associer le fait de raconter des histoires avec une netteté de son irréprochable. C'était propre. Et puis, c'était pas non plus tout le temps dynamique comme Ajargan. Il y avait quelque chose de posé. Et pour moi, ça reste certainement mon joueur préféré, quoi. Donc j'ai sélectionné le deuxième morceau de l'album parce que le premier, c'est une intro méditative. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand ça envoyait un petit peu plus. Et vous allez voir la précision et la netteté de son, la fluidité dans la respiration et dans le jeu. Moi, j'adore ce joueur. Je vous laisse écouter. You want me here. Voilà, ça c'était le deuxième morceau de l'album de Den Radour, Lizard Mystery. Den Radour, j'ai oublié de le préciser, c'est un Suisse allemand. Je suis tellement fan de lui que j'ai beaucoup écouté son album, donc j'ai décidé de vous mettre deux morceaux de plus pour vous faire comprendre un peu son univers. Le deuxième morceau que j'aimerais vous faire écouter, ça s'appelle le Taureau et le Papillon. Et vous allez vite comprendre qu'on voit tout à fait de quoi il s'agit quand on écoute le morceau. Essayez d'imaginer très rapidement le taureau et le papillon qui ont leur petite histoire. Vous allez voir, c'est vachement bien fait. J'imagine que vous avez pu entendre le taureau et le papillon. Moi, je trouve vraiment génial ce morceau, la manière dont il utilise la voix pour amener de la mélodie, pour donner du caractère au personnage et la finesse de son jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est rythmé, puis à la fois, on sent qu'il est complètement décontracté. Je suis fan de Den Radour. Et donc, pour le plaisir, je vous remets juste un autre morceau qui s'appelle Marie-Louise. Alors là, ça doit être une dédicace à je ne sais pas trop à qui, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus posé avec une basse et c'est vraiment très joli. Maintenant l'univers de Den Radour pour aller dans celui de Stephen Kent. Alors Stephen Kent, je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais quand même j'aime bien le fond de son jeu, c'est-à-dire la manière dont il aborde l'instrument et comment il fait rebondir son jeu. Et c'est vraiment le rebond Stephen Kent, ça saute ça sautille un peu dans tous les sens, vous allez rapidement l'entendre. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Energizer, on le trouve aussi sur YouTube. Et Stephen Kent, c'est un joueur qui est plus ancien que Den Radour. D'ailleurs, pour avoir discuté avec lui pendant un festival à Berlin qui réunissait plein de joueurs de didgeridoo. Il a été une grosse influence pour Dan Radour, voilà, dans le jeu. Et vous allez voir, c'est complètement différent, mais ça ne m'étonne pas que Stephen Kent ait influencé Dan Radour, parce qu'il y a quand même un peu la même approche. Voilà, donc c'est parti pour Energizer de Stephen Kent. Vous l'avez entendu, il joue que en rebond. C'est vraiment il a développé son jeu autour vraiment de cette technique-là. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on écoute les joueurs de la première génération, parce que Stephen Kent, il fait quand même partie de cette première génération qui a démocratisé mondialement le didgeridoo. Lui, il est anglais et il vit aux États-Unis. C'est qu'ils ont tous développé une spécificité vraiment très 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 poussée. C'est-à-dire Stephen Kent, c'est à fond les attaques gorge avec une respiration qui rebondit, tout ça. Donc c'est toujours intéressant de voir et d'essayer d'analyser un peu les jeux, parce qu'on voit qu'après ça s'est mélangé, puis que les joueurs des générations d'après ont commencé à mixer un peu des trucs de tel joueur avec tel joueur et puis à en faire leur style. Et ce qui n'était pas le cas au début, en fait. Au début, c'était très très spécifique. Chaque joueur avait vraiment à développer sa particularité. Encore maintenant, bien sûr, mais c'est beaucoup plus mélangé actuellement. Le prochain joueur s'appelle Christian. Alors là, il vient d'un album qu'on trouvait à la Fnac à l'époque, où il y avait écrit Océanie Didgeridoo dessus, dans le rayon du coup pour le Didgeridoo. Et quand on retournait l'album, il y avait plein de morceaux, tout ça. Il y en avait au moins 30. Je m'étais dit, waouh, génial, tout ça, 30 morceaux de didgeridoo. À l'époque, on trouvait pas beaucoup d'albums de didgeridoo. Donc j'ai acheté l'album, je l'ai mis dans la chaîne. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait que les 4 premiers morceaux qui étaient des morceaux de didgeridoo. Le reste, c'était des chants océaniens. C'était certainement très joli, mais moi, je m'en fichais complètement. Je voulais juste du didgeridoo. Et puis après, j'ai appris par la suite que c'était Christian qui jouait, c'est un joueur français qui s'était fait voler ses morceaux par une maison de disques quand on a fait un album, et qui a sorti ça en trompant un peu les gens en disant que c'était du didgeridoo, mais en gros, il y avait 4 morceaux de didgeridoo et des chants. Donc là, c'est un des morceaux de l'album, et vous allez voir que je me suis largement inspiré de son rythme. On peut même dire que je lui ai un peu piqué son rythme, sauf que je lui ai toujours cité dans mes sources et tout ça. J'en parle souvent régulièrement dans Christian, dans ma première méthode, j'en parle aussi. Bref, voilà, c'est un rythme qui m'a beaucoup inspiré. Après, je l'ai fait un peu à ma sauce. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez certainement reconnaître ce rythme qui groove pas mal. C'est vraiment un chouette rythme. Je vous laisse écouter. Mm-hmm. Avec ce morceau, j'ai découvert ce que j'appelle le couf maintenant, mais il y a plein de noms, quoi. Je crois que chacun donne un peu son nom, mais cette espèce de son de caisse claire comme ça qui arrive dans le rythme et qui fait vraiment une bonne rythmique. Et pour moi, c'est en tout cas, c'est Christian qui l'a amené, c'est la première fois que j'entendais ça. Et ça a été une petite révolution, une ouverture un peu sur tout un monde, sur vraiment ces sons dans lesquels on peut briser un peu le bourdon pour marquer un peu plus la rythmique. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un joueur de didgeridoo qui était très souvent invité à Ervo les premières années, au moins les 6-7 premières années, je dirais. C'est Mark Atkins. Alors, tous les anciens connaissent bien Mark Atkins parce qu'il a marqué vraiment beaucoup, beaucoup toute une génération de joueurs. Les nouveaux joueurs connaissent moins parce que ben, il est moins médiatisé maintenant, il vient moins jouer en France. Mais voilà, il faut savoir que Mark Atkins a été un des, comme Stephen Kent, un des pionniers vraiment à démocratiser le didgeridoo. Mark Atkins, il est aborigène, il vient d'Australie. C'était le compère de Alan Dargin, qui était aussi un joueur de didgeridoo aborigène. Beaucoup parlé d'Alan Dargin, j'en parle quand on parle de la respiration mâchoire, tout ça, ça a été aussi un grand quelqu'un qui a vraiment beaucoup participé à la démocratisation du didgeridoo. Et donc Mark Atkins, j'ai pas trouvé spécialement un morceau que j'écoutais régulièrement, mais il a participé quand même grandement à mon éducation musicale au niveau du didgeridoo. Donc j'ai choisi un morceau qui s'appelle Spontaneous Combustion, quoi, je le dis pas en anglais, mais qui est sur l'album Dreamtime et qui est, vous allez voir, il a mis un effet, c'est mieux de l'écouter au casque et c'est assez impressionnant. Mark Atkins, c'est du gros son, c'est joues gonflées à fond et il envoie pas mal du lourd. Et bon, je vous laisse écouter le morceau. Vous allez voir que c'est encore un autre style. Vous avez entendu ce son qui est quand même, en plus il a mis, je sais plus comment on appelle cet effet là, mais qui se balade droite gauche comme ça, je me demande si c'est pas un phaser, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, il a mis ce son là au début, la première fois que je l'avais entendu, mais j'avais que 2-3 ans de didgeridoo derrière moi quand j'ai entendu ce morceau et je me disais mais comment il fait cet effet, mais c'est incroyable et tout, et puis j'ai réalisé un peu plus tard que évidemment c'était un effet électronique, mais en tout cas derrière il y a quand même ce style bien particulier d'Atkins qui donne cette sensation d'une énorme machine qui avance comme ça et qui écrase un peu tout sur son passage. D'ailleurs, il avait fait un morceau qui était assez connu à Ervo parce qu'il le jouait chaque année, qui s'appelait Road Train en référence aux camions en Australie qui ont 3-4 morts qui foncent à travers le désert, et il jouait ça sur scène. On imaginait très facilement l'énorme camion qui était lancé, quoi. Donc voilà, Atkins, c'est un joueur un peu oublié mais qui mériterait d'être découvert parce que on n'a toujours pas percé son mystère. Il n'y a que lui qui joue comme il joue, ça vaudrait le coup parfois de s'en inspirer. On continue en Australie avec un joueur de didgeridoo qui, lui, a arrêté sa carrière. Il a été connu un peu sous le... un peu par hasard, quoi. Il y a eu plein de choses à cette époque-là qui l'ont fait connaître en Europe, beaucoup en France. C'est Mark Robinson. Mark Robinson, c'est un Australien qui vit à Darwin. Apparemment, il joue plus spécialement de didgeridoo, mais il était venu vivre 2 ans en Allemagne, et c'était à l'époque où la France a boosté testait à fond. Et donc, il avait donné quelques stages ici en France, dont un stage à Lyon, voilà, qui était organisé par l'association Australian Vibration, je ne sais jamais si on doit le dire en anglais ou en français, qui est l'asso actuelle de Lyon, qui vit encore. Et en fait, donc, on était là voilà, pour venir apprendre la technique très particulière de Mark Robinson. J'ai pas de morceau à vous faire écouter d'un album, parce qu'il a pas fait spécialement d'album, ou en tout cas pas que j'ai pas son album s'il en a fait un. Mais par contre, j'ai un morceau, un extrait d'un des morceaux qu'il nous a donné pendant le stage, un morceau à bosser, donc il va le jouer lentement, puis rapidement, et vous allez entendre, c'est lui qui a beaucoup développé des attaques longues, très sèches, et qui a un jeu très, très pointu comme ça. Et d'ailleurs, en réécoutant son style, on voit que Zalem s'est beaucoup inspiré aussi de lui. Moi, j'ai pris un peu 2-3 trucs, mais j'ai pas tout pris, mais il y a vraiment beaucoup de choses à développer derrière. Il avait un jeu qui changeait complètement à l'époque. Je vous laisse découvrir Mark Robinson.
Comfortably in a rhythm.
Vous pouvez voir que quand il accélère son rythme, c'est là que ça prend tout son sens, son style. Il le joue lentement au début parce que, ben voilà, on était, il fallait qu'on apprenne, hein, il fallait qu'on apprenne, donc il nous le jouait lentement. Mais normalement, il le joue à la vitesse beaucoup plus rapide comme il joue, et on voit qu'il a développé énormément les attaques langues. Je vous mettrai sur la page du podcast une vidéo où on me voit avec Rudy Zalem et puis et Mark Robinson, où on discute. Je lui montre un wobble, tout ça. Voilà, c'est une vidéo souvenir. Vous pourrez voir un peu la tête qu'on avait à l'époque. C'était il y a un petit moment, c'était en 2007, je crois, 2007-2008, je ne sais plus exactement. Et enfin, on arrive au 10e morceau. Alors, j'ai pas mal hésité pour ce 10e morceau parce que, ben voilà, faut réduire à 10 morceaux, c'est assez délicat. Il y avait Outback, je ne sais pas si vous connaissez, c'est guitare didgeridoo. C'était assez, pareil, je trouve que c'était assez en avance sur son temps, c'était très musical. Mais c'était pas complètement didgeridoo, et moi à l'époque j'avais besoin du pur didgeridoo pour vraiment comprendre les techniques. C'est ça que j'allais chercher en fait. J'écoutais les techniques et tout ça, je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Donc je vous encourage à aller écouter Outback. Vous mettez Outback didgeridoo, vous devriez les trouver facilement, parce qu'il y a vraiment un style particulier qui est assez inimitable et qui était vraiment très intéressant. Donc au départ, je voulais partir là-dessus, et puis je l'ai écouté un petit peu, mais je ne l'ai pas écouté énormément. Ça n'a pas été une révolution pour moi. Et j'ai changé là, juste en enregistrant le podcast, je me suis dit non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre vraiment un morceau qui m'a beaucoup, quoi, un joueur qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ce joueur, c'est Andrzej Szmekal. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. En fait, Szmekal, lui, il joue, c'était la génération avant moi. Et donc, je l'ai écouté, je crois que c'était en 2006 ou 2007 à Ervo. Et là, je me suis pris, 2007 je crois, c'était à la sortie de mon album. Je me suis pris une énorme claque. En fait, il est arrivé sur scène et il a joué. Et pour ceux qui n'ont pas déjà vu Szmekal sur scène, c'est impressionnant parce qu'il arrive, il se pose, il joue, il dit rien. Il joue et puis il repart. Et en fait, tu te prends une heure et demie, deux heures de son. C'est hallucinant, quoi. Donc, je trouve que c'est un joueur qu'on écoute beaucoup plus en live qu'en CD, quoi, pour ma part. Je trouve qu'en live, il se passe vraiment quelque chose. En album, je trouve ça vachement plus dur à écouter. Vous allez entendre, c'est beaucoup... c'est très, très typé comme jeu. Mais il a surtout apporté vraiment quelque chose de complètement nouveau avec son style. Il a révolutionné une partie du didgeridoo en introduisant beaucoup plus les survibrations et la voix. Et donc, c'était vraiment scotchant. C'était un niveau... ouais, c'était un ovni là au milieu, je me souviens, à Ervo, la première fois qu'il a joué, c'était incroyable. Donc voilà, je vous laisse découvrir un morceau d'Andrzej. Alors, j'ai pas spécialement écouté ce morceau-là, mais c'est pour son style, pour juste faire un hommage à Andrzej, parce que, voilà, pour tout ce qu'il a apporté, je vous laisse écouter. « Donc vous l'aurez remarqué, Andrej aime bien envoyer un peu du lourd. Alors si je me trompe pas, c'est le deuxième morceau de son deuxième album qui s'appelle Didgeridoo Solo 2, ça c'est le nom de l'album, et qui est sorti normalement, si je me trompe pas, en 2006. Donc il s'est passé 13 ans depuis, et Andrej sur scène a quand même changé un peu. Il est resté là-dedans, mais je trouve qu'il s'est vachement posé et qu'il y a beaucoup plus d'aération dans son jeu. Et il avait joué l'année dernière à Nomadige et ça avait été assez scotchant. Et pourtant, j'en ai vraiment marre d'écouter du didgeridoo et je m'ennuie très vite. Et là, il avait amené tout le monde pendant une heure et demie. On a été tous bluffés, quoi. Il nous a emmené vraiment en voyage. Donc André, je vous le conseille vivement en live. Si vous pouvez le voir en live, allez-y, c'est vraiment génial. J'ai terminé le tour des 10 morceaux. Évidemment, ça n'est qu'une sélection. Mais je serais curieux un peu de voir un peu vous, quels sont les morceaux qui vous ont influencé. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier, un artiste particulièrement, ou est-ce que vous en avez eu, comme moi, plusieurs sur votre chemin qui vous ont fait qui vous ont permis de comprendre certaines choses ou voir, entrevoir les possibilités du didgeridoo. Ça peut toujours faire découvrir plein de choses pour la communauté, tout ça. Voilà. Et ben, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain podcast. Salut !